Vous êtes sur RTL.
8h. RTL Soir, c'est maintenant avec vous, Julien Cellier. Bonsoir, Julien.
Bonsoir, Céline. Bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. Ça y est, nous sommes ensemble pour 2 heures d'actualité avec vous. Et à la une, un témoignage RTL. Le témoignage d'une maman. 3 de ses enfants sont tombés malades après avoir mangé des pizzas Buitoni. La bactérie E. coli a fait des ravages. Hospitalisation, réanimation. La mère de famille a vécu l'enfer. Elle va nous raconter les autres titres de l'actu dans votre journal à suivre. Bonsoir, Marion.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Et dans ce journal, la 4e dose anti-Covid, désormais ouverte aux plus de 60 ans. Les derniers meetings de campagne, Yannick Jadot, Marine Le Pen, Éric Zemmour, notamment sur scène ce soir pour mobiliser à 3 jours du premier tour. Était-il criminel ? L'enquête se poursuit après l'incendie de Saint-Laurent-de-la-Salanque en février dans les Pyrénées-Orientales. 3 personnes ont été placées aujourd'hui en garde à vue. Et puis des atrocités évoquées au téléphone, quand le renseignement allemand intercepte des conversations entre soldats russes après le massacre de Boutcha en Ukraine, conversation sans équivoque, vous l'entendrez.
À 18h15, RTL, au plus près du match de la peur ce soir, Marseille-Salonique, quart de finale de Coupe d'Europe des ultra-grecs, sème la pagaille en ville depuis hier soir. Nos envoyés spéciaux sont positionnés autour du stade et le directeur de la communication de l'OM, Jacques Cardos, sera à notre invité dans une demi-heure à 3 jours de l'élection de demander le programme, qui propose quoi ce soir pour la justice. À 18h40, on va défaire le monde avec Céline Landreau et toute la bande. Bonsoir Céline.
Bonsoir.
Programme s'il vous plaît.
On va scanner votre cerveau d'électeur. Qu'est-ce qui se passe dans l'isoloir ? Qu'est-ce qui vous fait choisir tel ou tel candidat ? Vous pensez être rationnel ? C'est pas si simple que ça. On parlera aussi Crocs, combinaison de ski et rouge à lèvres, parce qu'on aime le style dans cette émission.
Ah bah, on a remarqué, à 19h15, on va refaire le monde et la campagne aussi avec nos polémistes. 3 débats. Est-ce que les indécis vont faire exploser les pronostics ? Pourquoi personne ne parle vraiment du climat dans cette campagne ? Et puis, un autre vote, Benzema ou Mbappé, faites votre choix. Et puis, des points météo au fil de l'émission avec Peggy Broche, bien entendu. Bonsoir Peggy.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
La tendance.
Tempétueux demain sur toute la moitié nord.
On détaille tout ça dans quelques minutes.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Et d'abord, ce document RTL, le témoignage d'une maman dont 3 des 4 enfants ont été hospitalisés après avoir mangé une pizza Buitoni.
Contaminée par la bactérie E. coli qui a provoqué chez eux une complication grave, Aline a raconté à Agathe Landé le calvaire qu'ils ont vécu.
La grande a eu des maux de ventre puis des vomissements avec une insuffisance rénale. Elle a été hospitalisée pendant 15 jours dans un service de pédiatrie spécialisée à Nantes. Et puis ensuite, notre fils de 9 ans, Ethan, lui, ça a été un petit peu plus modéré puisqu'il n'a eu ni dialyse ni transfusion. Ensuite, c'est sa petite sœur de 2 ans et demi, Lola. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, elle avait déjà le pronostic vital engagé puisque la toxine avait attaqué le cerveau, le cœur et les reins. Elle a passé 1 semaine en réanimation, dont 5 jours en branchée à une machine en continu pour pouvoir prendre le relais de ses reins. Donc aujourd'hui, voilà, il garde des séquelles. On ne sait pas ce qui va rester à vie, si c'est temporaire. On ne sait pas encore, on n'a pas assez de recul. Ils sont traumatisés, notamment la dernière qui n'a que 2 ans et demi, qui n'a pas franchement compris ce qui s'était passé. Et donc, on envisage des poursuites parce qu'il ne faut plus que ça se reproduise pour d'autres personnes, quoi.
1 semaine en réanimation après avoir mangé une pizza à ce jour. Santé publique France a recensé 50 cas de complications graves liées à la consommation d'une pizza Fresh Up. 25 autres sont en cours d'investigation. Ils sont connus pour être violents, mais ce sont bien 3000 supporters grecs qui ont été autorisés à venir assister ce soir au match de leur club, le POK Salonique, contre Marseille en quart de finale de la Ligue Europe Conférence.
Et ces supporters, qui avaient été priés de se faire discrets, ont déjà fait parler d'eux. Affrontement hier soir avec les forces de l'ordre et ça a continué aujourd'hui dans Marseille, Étienne Baudu.
Oui, ça continue, même si pour l'instant c'est un peu plus calme qu'hier soir. Entre 600 et 800 supporters grecs ont été cet après-midi contenus, on va dire, devant une grande surface proche du centre-ville, très encadrée par les forces de l'ordre. Ils devraient être acheminés ici au stade Vélodrome, en bus, incessamment sous peu, nous a-t-on dit. Alors bien entendu, on craint de nouveaux incidents ici devant le stade et tout à l'heure à l'intérieur. Il faut dire que ce qui s'est passé hier soir ne laisse rien présager de bon. Supporters grecs et marseillais ont essayé de s'affronter toute la nuit, jouant au chat et à la souris avec les policiers qui se sont interposés à plusieurs reprises. Et puis en début d'après-midi, après-midi, là tout à l'heure, à 13h15, deux Grecs ont été interpellés après l'agression d'un automobiliste et d'un équipage de la BAC. En tout cas, c'est une rencontre sous haute tension à laquelle on s'attend ici à Marseille.
Et on va suivre bien entendu l'avant-match avec vous, Étienne Bonny. On vous retrouvera dans quelques minutes autour de Vélodrome, puisque le directeur de la communication de l'OM, Jacques Cardo, sera également notre invité.
Et cet OM, pas PAOK Salonique, sera à
comment
suivre
on va faire
ce
pas
soir.
Simple, hein.
Exactement, PAOK Salonique à 21h ce soir sur W9, autre match en Ligue Europe, West Ham Lyon également à 21h.
RTL Soir.
Le ministre de la Santé l'a donc annoncé ce matin sur RTL. Comme les plus de 80 ans, désormais les plus de 60 ans peuvent désormais prétendre à une quatrième dose. D'abord, à partir de quand, Odile Pouget ?
Dès lors qu'il s'est écoulé 6 mois depuis votre premier appel. À l'heure actuelle, cela concerne 500 000 personnes. Fin mai, on sera déjà à 5 millions. Rien d'obligatoire, bien sûr. Mais d'après une étude réalisée en Israël, où cette vaccination est pratiquée depuis janvier maintenant, eh bien cela divise par 4 le risque de forme grave.
Et pour les personnes qui ont été infectées entre la troisième dose et aujourd'hui, il se passe quoi ?
Si vous avez été contaminé moins de 3 mois après votre rappel, vous attendez 6 mois après l'infection. En revanche, si l'infection est survenue plus de 3 mois après votre rappel, eh bien pas besoin de faire cette quatrième dose, car dans ce cas, la réponse du système immunitaire est au moins équivalente à celle du rappel.
Et ça va se passer comment cette quatrième dose ? Est-ce que la logistique va suivre ?
On a les bras, on a les vaccins. Alors préférez quand même votre médecin ou votre pharmacien. Il y a très peu de centres ouverts aujourd'hui, 500 sur tout le territoire avec des plages horaires réduites. C'est peut-être une des raisons qui peut expliquer aujourd'hui que seulement 13% des plus de 80 ans, ça fait 260 000 personnes seulement, ont reçu leur quatrième dose, alors que pour cette tranche d'âge, la vaccination est ouverte depuis plus de 3 semaines.
Seulement 13% des plus de 80 ans quadruplement vaccinés. Vous nous avez dit que ça réduisait par 4 les formes graves.
Absolument.
C'est à retenir. Près d'un mois après l'ouverture de ce nouveau rappel, merci beaucoup Odile Pouget.
Ils jettent leur dernière force dans la bataille. On va les suivre ce soir. Petit tour des derniers meetings à 3 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Yannick Jadot d'abord à Nantes. Vous y êtes pour RTL, Marie-Bénédicte Allaire. Pour le candidat écolo, hein, l'occasion de s'afficher plus que jamais comme le candidat du climat après l'appel à l'action du GIEC cette semaine.
Oui, tout à fait. Un dernier meeting au Nef, une ancienne halle industrielle sur l'île de Nantes pour parler climat. Comme ce matin encore à Saint-Brévin-les-Pins, au bord de l'océan, où il était dans un centre médico-social menacé par la montée des eaux. Alors ce que Yannick Jadot va dire dans quelques instants, c'est qu'il va essayer de mobiliser les électeurs, en particulier les jeunes, pour leur dire que dimanche, ils doivent voter pour leurs convictions plutôt qu'en faveur d'un candidat mieux placé dans les sondages. Yannick Jadot, il est donné à 5 ou 6%, mais il garde toujours l'espoir d'un sursaut dimanche. Avec cet argument, lors des derniers scrutins, les écolos ont toujours créé la surprise.
Yannick Jadot à Nantes. Donc Marine Le Pen, elle, à Perpignan, elle va monter sur scène dans moins d'une demi-heure, Marie Mollet, avec un objectif, mobiliser sa base pour donner raison au sondage qui la donne en progression constante.
Ouais, je peux vous dire qu'ici à Perpignan, il y a déjà comme un parfum de fête, un tube des années 80 à plein volume, jeu de lumière fuchsia, ambiance soirée disco, 3000 militants attendus au parc des expositions qui commencent déjà à affluer et disons-le à se trémousser devant un diaporama géant de Marine Le Pen, car dans les gradins ce soir, on ne veut plus douter de la qualification de Marine Le Pen au second tour. Elle sera face à Macron, c'est plié, me disait un militant. Et tout à l'heure, sur l'estrade, Marine Le Pen aussi va regarder au loin vers le second tour avec un slogan qu'elle répète « Si le peuple vote, le peuple gagne ». Elle va leur dire que cette fois c'est la bonne, cette fois c'est pour nous, m'expliquait tout à l'heure l'un de ses conseillers. Un message pour d'abord mobiliser son socle, car elle le sait, l'abstention de sa base, c'est encore ce qui pourrait la faire trébucher dimanche soir.
Et dernier meeting aussi pour Éric Zemmour ce soir au Dôme de Paris. Thomas Desprez, le candidat Reconquête, lui compte s'adresser à la jeunesse. Hein.
Oui, ces jeunes qui, souvenez-vous, il y a plus de 6 mois avaient placardé des dizaines d'affiches à son effigie alors qu'il n'était même pas encore candidat. Et bien ce soir, en quelque sorte, Éric Zemmour vient boucler la boucle avec eux. Près de 5000 jeunes sont attendus. Ce sera donc plus que chez Marine Le Pen ou Yannick Jadot, l'occasion d'une ultime démonstration de force, même si dans la grande majorité des sondages, Éric Zemmour plafonne sous les 10%, ce qui rend donc impossible une qualification au second tour, mais le positionne en bonne place pour avoir son mot à dire dimanche soir.
Thomas Desprez, Marie Mollet, Marie-Bénédicte Allaire sur ses derniers meetings de campagne.
RTL, 18h09. Un mois et demi après l'incendie de Saint-Laurent-de-la-Salanque dans les Pyrénées-Orientales, qui avait fait 8 morts, dont un bébé et un enfant. Nouvelle étape aujourd'hui dans l'enquête.
Bonsoir Patrick Tégéraud.
Bonsoir Marion, bonsoir à tous.
Vous êtes sur place pour RTL. Trois personnes ont été placées aujourd'hui en garde à vue.
Oui, tout le monde ici espérait qu'il s'agirait d'un accident et c'est donc le pire des scénarios qui semble se dessiner avec des arrestations ce matin pour destruction volontaire par incendie ayant entraîné la mort. Et pour ajouter encore à la stupéfaction ici, l'un des trois gardés à vue serait le gérant de l'épicerie d'où l'incendie a débuté. Olivier avait un restaurant qui a été soufflé par l'explosion en face de cette épicerie et il connaît très bien le gérant.
Moi, Khaled, c'était un ami à moi, on travaillait ensemble tous les jours, on vivait ensemble. Quand c'est arrivé cette histoire-là, bien sûr, on n'a pas compris. Et si aujourd'hui, si ces personnes sont en garde à vue, si vraiment elles sont responsables de ce qui s'est passé, forcément, ça va créer...
Ça paraît incompréhensible pour vous, que votre ami Khaled ait pu mettre le feu chez lui?
Bien sûr, c'est incompréhensible.
C'est le sentiment aussi d'Emine et de Christelle qui tiennent un magasin dans la rue adjacente.
C'est quelqu'un que je ne soupçonnerai jamais de faire une chose pareille. C'est un collègue qui est très sympathique. Là, vous m'apprenez, là, je suis choquée. Hein. Quand même. Les gens qui sont morts, c'est des amis à lui. Hein. Enfin, c'est des connaissances.
Non, je crois pas.
C'est des connaissances. Je ne sais pas, il n'est pas du genre à faire ça. Hein.
Les trois gardés à vue sont entendus par les gendarmes de la section de recherche de Montpellier. À Saint-Laurent, on apprécie que l'enquête progresse. Mais on redoute ses conclusions.
Patrick Tégéraud à Saint-Laurent de la Salanque pour RTL. Et puis on l'a appris ce soir en Norvège, une avalanche a fait plusieurs victimes. La police indique que les trois victimes sont françaises.
Allez, une pause dans ce journal et dans un instant, des conversations accablantes interceptées entre soldats russes après le massacre de Boutcha en Ukraine. A tout de suite.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
18h12, la suite de votre journal sur RTL. Après la découverte du massacre de Boutcha en Ukraine, de nouveaux éléments accablants ce soir contre les forces russes.
Révélés par le magazine allemand Der Spiegel, Bénédicte Tassard, les services de renseignement allemands ont intercepté des conversations sans équivoque entre soldats russes.
Aucune équivoque comme cette conversation dans laquelle un soldat russe raconte avoir abattu un Ukrainien qui circulait à vélo à Boutcha. Vous avez encore en tête cette image du cadavre d'un civil couché sur sa bicyclette dans une rue de la ville. Dans un autre message radio, un homme affirme « On interroge d'abord les soldats, puis on les abat. Ces militaires parlent des atrocités comme de leur vie quotidienne », décrit le magazine allemand. Ces messages confirment aussi que des mercenaires russes du groupe Wagner ont participé aux tueries. Ces informations, elles viennent donc directement des services de renseignement allemands qui ont informé hier certains députés du Bundestag. Les enregistrements audio confirment que le meurtre de civils fait partie de l'activité habituelle de l'armée russe pour semer la peur dans la population et réduire sa résistance.
Bénédicte Tassard, ce soir, le secrétaire d'État américain estime que les Russes commettent de nouvelles atrocités en ce moment même, alors que aux Nations Unies, là, un vote vient de voter donc la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme. Autre vote symbolique, celui non contraignant du Parlement européen qui s'est prononcé pour un embargo total et immédiat sur les importations de gaz, de pétrole et de charbon russe. Il était 17h05 tout à l'heure, heure française, 11h05, heure locale.
Tiger Woods.
Le retour officiel de Tiger Woods à la compétition sur le Masters d'Augusta, premier grand chelem de la saison. Voilà, le premier coup de Tiger Woods.
Quel
il
swing.
Va tenter de remporter une sixième fois ce Masters d'Augusta un peu plus d'un an après un grave accident de voiture après lequel il avait failli être amputé.
C'est l'homme des comebacks, ce Tiger Woods. Merci beaucoup Marion, à tout à l'heure. Le temps pour demain.
Très agité, Peggy. Julien. Alors, il y a la tempête Diego qui va...
Mais quand est-ce que ça s'arrange?
Ça va s'arranger dimanche.
Ah,
à partir
d'accord.
De samedi, sera un peu mieux. Dimanche, on aura du soleil. Mais en attendant, demain, c'est vrai, la tempête Diego va toucher le nord du pays, d'ouest en est. Donc, le temps sera pluvieux et venteux de toute façon sur les trois quarts nord. Seules les régions, comme aujourd'hui, du Sud-Aquitaine et à la Méditerranée, seront à l'écart. Le vent va se renforcer au fil des heures, avec des rafales jusqu'à 110 km/h sur la côte atlantique, 80 à 100 km/h à l'intérieur du pays. On a trois départements du Poitou-Charentes en vigilance orange. Vent violent, des coups de tonnerre possibles et quelques flocons même avec l'arrivée du froid dans l'après-midi entre la Normandie et les frontières du Nord. Et encore beaucoup de neige sur les Alpes d'ailleurs. La Savoie est en vigilance orange avalanche. Donc beaucoup d'informations. Le tout avec des températures en baisse au Nord et en hausse au Sud. 5 degrés pour l'après-midi seulement à Lille et à Rouen, 10 à Paris, 14 à Strasbourg, 15 à Nantes, 17 à Bordeaux et 21 à Tarbes et Marseille.
Merci beaucoup Peggy. Petite pause et ensuite dans RTL Soir, direction Marseille. OM, Salonique, match de foot à haut risque ce soir. Des ultra grecs ont semé la pagaille en ville ces dernières heures. Ils seront 3000 tout à l'heure dans le stade Vélodrome. Est-ce qu'il fallait vraiment les laisser venir en France? On va notamment poser la question à Jacques Cardoz, le directeur communication de l'OM, qui sera avec nous. À tout de suite.
RTL Soir, Julien Sellier. Julien Sellier,
l'invité d'RTL Soir.
18h18, bonne fin de journée. Vous écoutez RTL et nous allons partir à Marseille maintenant avec ce match de la peur en quelque sorte ce soir. Ce match en tout cas à haut risque. OM, PAOK, Salonique, quart de finale aller de Ligue Europe Conférence. Alors vous allez pouvoir vibrer devant ce choc ce soir sur W9, mais on espère surtout que la rencontre ne sera pas émaillée de violence. L'avant-match est tendu, la crainte des autorités est très grande après des violences, des débordements hier soir et cet après-midi en ville. Bonsoir Jacques Cardoz.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de la communication de l'OM. Vous êtes à l'intérieur du stade Vélodrome. On va échanger avec vous dans un instant. Juste avant, on va aller rejoindre à l'extérieur du stade notre correspondant Étienne Baudu qui suit ces événements depuis de longues heures maintenant. Bonsoir Étienne.
Bonsoir.
Ils sont où les 3000 supporters grecs là à l'instant T?
Alors écoutez, a priori les supporters grecs sont arrivés, une partie en tout cas des supporters grecs sont arrivés en bus à proximité du stade. Ils sont passés par le parc Chano qui se trouve derrière le stade. Ils ont été accompagnés par la police et je vous dis, je le suppose parce que je suis devant les escaliers et déjà des affrontements entre policiers et cette fois-ci supporters marseillais sont en cours. Des supporters marseillais qui ont semble-t-il voulu aller à l'affrontement avec les Grecs qui arrivaient et les policiers ont immédiatement répliqué là avec actuellement, d'ailleurs, je me recule avec des bombes lacrymogènes sur le boulevard Michelet qui se trouve devant le stade Vélodrome pour écarter tous ces supporters ultra marseillais qui voulaient donc en découdre avec les supporters grecs qui viennent d'arriver donc au stade sans doute en bus escortés par la police.
Alors, supporters grecs qui ont semé la pagaille hier et cet après-midi en ville, d'où peut-être cette envie d'en découdre?
Ah oui, vraiment, cette nuit jusqu'à 3h du matin, ils ont cherché à affronter les Marseillais qui n'étaient pas en reste d'ailleurs. La police qui veillait au grain a passé la nuit à tenter d'empêcher ces affrontements, obligé même de lancer des bombes lacrymogènes dans le hall d'un hôtel où se trouvaient des supporters grecs pour éviter que ces supporters aillent en découdre à l'extérieur avec des supporters marseillais. Un comportement est extrêmement délicat et qui continue là d'ailleurs cet après-midi en tout début d'après-midi. Deux supporters grecs ont été interpellés. Ils venaient d'agresser un automobiliste marseillais et l'équipage de là-bas qui était venu lui porter secours.
Étienne, malheureusement, ces supporters de Salonique, ils ont une triste réputation. On les connaît bien en Europe.
Ah oui, une réputation vraiment sulfureuse, hein, en particulier ceux du club des Ultra Gate 4, c'est comme ça qu'on les appelle, les plus fous, disent certains. Dans leur stade, ils n'hésitent pas, lors d'une demi-finale de la Coupe de Grèce, à craquer des centaines de fumigènes dans les gradins. Lors de leur déplacement, ils n'hésitent pas non plus à donner du coup de poing dans les rues, comme hier soir à Marseille, pour défendre les couleurs du club, le noir et le blanc. Ils sont même accompagnés, nous a-t-on dit, par des supporters du Partizan Belgrade, des Serbes, oui, des Serbes, qui sont tout aussi violents, et une sorte d'international des ultras. Et puis d'un autre côté, ils flirtent aussi avec l'ultranationalisme le plus sombre. En 2018, en marge d'une manifestation nationaliste, ils incendient un squat anarchiste. Plus grave encore, en février dernier, un jeune supporter de Laris, l'autre club de Thessalonique, le club rival, est poignardé à mort par des supporters radicaux du PAOK. Enfin, la direction du club n'est pas en reste. En 2018, son propriétaire, Ivan Savidis, un oligarque gréco-russe proche de Poutine, était entré sur le terrain pour contester une décision de l'arbitre à sa ceinture. Il portait un revolver. Il vient d'être condamné à 2 ans de prison et une suspension de stade de 3 ans.
Club aux dirigeants et aux ultras plutôt sulfureux. Merci Étienne Baudu pour vos précisions ce soir. Jacques Cardoz, je reviens vers vous le directeur de la communication de l'OM. Quel est votre message ce soir aux supporters de l'OM qui sont en train de s'approcher du stade? Ne répondez pas aux provocations. Est-ce que vous lancez un appel au calme? La situation semble quand même assez tendue sur place.
C'est exactement cela. C'est un message qu'on répète inlassablement à nos supporters à l'occasion de chaque match. Effectivement, et votre reporter le décrivait, la situation est ce soir peut-être un peu plus complexe que d'habitude. Évidemment qu'on lance un appel au calme, évidemment qu'on demande à chacun de nos supporters, à tous ceux qui ont l'intention de se rendre au stade ce soir, de ne pas répondre à la provocation, de ne pas se mêler à des rassemblements qui pourraient concerner des supporters du PAOK Salonique. Il faut évidemment rester très loin de tout cela. Et je me réjouis que la police ait entrepris, là, il y a maintenant une heure, de mobiliser 14 quarts de la RTM pour pouvoir acheminer justement les supporters du PAOK Salonique à l'intérieur du stade. Et au moment où je vous parle, eh bien, ils ont commencé à pénétrer à l'intérieur du stade. C'est la meilleure chose qui puisse nous arriver, parce qu'une fois qu'ils sont à l'intérieur du stade, eh bien, ils ne sont pas confrontés directement à nos supporters. Mais je voudrais dire deux choses à ce sujet.
Mais est-ce que vous êtes inquiet pour la sécurité de vos supporters, Jacques Cardoz ? Est-ce que vous craignez des incidents dans le stade ? On a vu que ces supporters étaient très violents. On les a vus balancer des chaises, des tables de bar sur des passants hier soir dans les rues de Marseille. On se demande comment va se passer la rencontre.
Écoutez, là, ce qui est important, c'est que je voudrais préciser à vos auditeurs que l'Olympique de Marseille n'est pas responsable de la sécurité à l'extérieur du stade, mais seulement à l'intérieur du stade. Hein, il faut le préciser. C'est un problème d'ordre de sécurité publique à l'extérieur et à l'intérieur. Effectivement, là, cette fois-ci, ce sont nos stadiers et notre sécurité qui prend le relais. Concernant le PAOK Salonique, il y a une quinzaine de stadiers du club grec qui les accompagnent et qui doit en principe éviter tout heurt. On a un dispositif de sécurité qui doit nous permettre d'éviter tout contact entre les supporters grecs et nos supporters ce soir. Mais pour répondre à votre question, l'inquiétude est toujours là lorsque effectivement on peut avoir affaire à des supporters qui sont, on le sait, parfois virulents.
Jacques Cardoz, il y a quelque chose qui quand même nous interpelle en championnat de France, parce qu'on parle de violence assez régulièrement malheureusement depuis des mois. On sait que les préfets prennent des arrêtés et souvent les supporters adverses sont interdits de déplacement. D'ailleurs, les supporters de l'OM ont souvent été privés de matchs à l'extérieur. Ils n'ont pas pu aller à Nice, ils n'ont pas pu aller au Parc des Princes par exemple. Et là, en Europe, on a affaire à des ultra-grecs. On a entendu les précisions d'Étienne Baudu qui ont très 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 mauvaise réputation et ils ont droit de venir à 3000 à Marseille. Ce n'est pas un peu paradoxal ? Est-ce que la préfecture, le ministère de l'Intérieur n'ont pas sous-estimé le danger ?
Alors là, on est face à un double problème que je veux vous expliquer. Le premier, il est presque juridique. Lorsque la préfecture interdit un déplacement de supporters, par exemple bordelais ou Saint-Étienne ou que sais-je encore, à Marseille, elle le fait sur la foi d'un événement précédent, sur un antagonisme, et elle s'appuie dans son argumentaire sur des incidents qui ont pu se passer par le passé. Et donc là, si vous voulez, elle ne peut pas le faire, puisque d'abord, il n'y a pas eu de rencontre entre l'Olympique de Marseille et le PAOK Salonique, et ensuite, ce club n'a pas atteint les quarts de finale de Coupe d'Europe depuis 1974. Le deuxième problème, qui est encore plus fort à mon sens, c'est que si les déplacements des clubs étrangers ne sont pas organisés, vous vous retrouvez avec une diaspora à qui vous ne pouvez pas interdire d'acheter des billets où ils le voudraient, n'importe où dans le stade.
Et là, vous vous retrouvez avec un problème.
Ben oui, parce que là, vous vous retrouvez avec un problème de sécurité encore plus pointu, avec des gens qui éventuellement peuvent en vouloir aux Marseillais et qui se retrouveraient parmi eux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne veut absolument pas. On veut que les supporters visiteurs soient dans le parquage visiteur, parce que c'est la meilleure sécurité qui soit à l'intérieur de l'Orange Vélodrome.
Jacques Cardoz, la semaine prochaine, il y a le match retour en Grèce. Est-ce que... vu le contexte, vous demandez aux supporters de l'OM de rester à la maison et de ne pas se déplacer à Salonique.
Écoutez, on verra ce qui se passe dans les prochaines heures. J'ai la faiblesse de penser que tout peut bien se passer et qu'on peut voir un beau match de football et qu'on ira au bout de ce match et puis que nos supporters pourront se déplacer la semaine prochaine. Ils l'ont fait à Bakou en Azerbaïdjan à l'occasion du déplacement contre l'équipe de Karabagh. On avait organisé un meeting point, c'est-à-dire que à la sortie des bus, nos supporters étaient localisés dans un endroit, dans un parc. Puis ensuite, ils vaquaient à leurs occupations pendant quelques heures. Puis ensuite, ils étaient à nouveau conduits jusqu'au stade. Il y a une sorte de corridor qui est organisé, ça existe. Et c'est un moyen très sécurisé. C'est possible. Et c'est un dispositif qui existe. On saura le faire si on nous en laisse la possibilité la semaine prochaine en Grèce.
Merci Jacques Cardoz, directeur de la communication de l'OM, d'avoir été ce soir notre invité sur RTL à moins de 3 heures. On entend encore les grenades lacrymogènes derrière vous de ce quart de finale de Coupe d'Europe on a compris que c'était un match à haut risque entre l'OM et le PAOK Salonique. On espère que tout se passera bien, on espère aussi que l'OM gagnera et ce sera tout à l'heure sur W9. Merci Jacques Cardoz. Dans un instant, RTL Soir va se poursuivre avec Demander le programme. Nous sommes à 3 jours de l'élection présidentielle. Quelles sont les propositions des candidats pour la justice? C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup et il a fallu fouiller dans les programmes des candidats d'ailleurs pour savoir ce qu'ils en pensaient. Et puis laissez-vous tenter dernière avec une avocate humoriste. A tout de suite.
RTL Soir avec Julien Cellier.
RTL. Bonne fin de journée. RTL Soir à vos côtés, il est 18h30.
RTL Soir avec Julien Cellier.
Et si vous nous rejoignez, Marion Calais vous rappelle les trois grands titres de l'actualité.
L'Ukraine dit ce soir sa reconnaissance après le vote à l'ONU. L'Assemblée générale des Nations unies a suspendu la Russie du Conseil des droits de l'homme. La Russie, par la voix d'un porte-parole du Kremlin, qui reconnaît ce soir des pertes militaires importantes en Ukraine. Du foot ce soir, quart de finale aller de la Ligue Europe. Lyon sur la pelouse de West Ham en Ligue Europe Conférence. Marseille opposé au PAOK Salonique. Coup d'envoi 21h, match à suivre sur W9.
Merci beaucoup Marion. Le temps demain, Peggy,
forte pluie, agité, beaucoup de vent, venteux. Très agité, exactement, avec la tempête Diego sur toute la moitié nord demain. Plus au sud, les pluies seront moins marquées, mais ça va bien souffler. Trois départements du Poitou-Charentes sont en vigilance orange pour vent violent. Encore beaucoup de neige également sur les Alpes du Nord. La Savoie est en vigilance orange, avalanche. Et dans l'après-midi, quelques flocons possibles entre la Normandie et les frontières du Nord, et toujours à l'écart de ce temps agité. L'extrême sud avec un temps sec, mais voilà, les températures très contrastées entre le nord et le sud, de 5 à Rouen à 21 à Marseille demain, 8 à Reims, 10 à Paris, 16 à Lyon, 20 à Montauban et 23 à Bastia.
Merci Peggy.
Présidentielle 2022, demandez le programme.
Et J-3 avant le premier tour de cette élection présidentielle, comme tous les soirs donc à cette heure-ci. Demandez le programme. Qui propose quoi aujourd'hui pour la justice? Parce que ça nous concerne tous. On peut tous un jour divorcer, porter plainte, et les magistrats alertent sur un manque de moyens depuis maintenant des mois et des mois. Bonsoir Cindy Hubert.
Bonsoir.
Il faut quand même fouiller dans les programmes des 12 prétendants à l'Élysée pour trouver un mot sur la justice.
Oui, la justice c'est compliqué. Ce n'est jamais un sujet très vendeur en temps de campagne. Les avocats, via la Conférence nationale des bâtonniers, ont donc tenté d'en savoir plus en envoyant, comme toujours, un questionnaire à tous les candidats. Eh bien, sachez que pour la première fois de l'histoire, aucun n'a jugé bon de répondre.
Alors, pour autant, tous ces candidats sont d'accord pour dire qu'il faut des sous pour la justice.
Oui, en même temps, il aurait été difficile d'ignorer totalement le SOS lancé par les magistrats. Tous les candidats sont donc d'accord sur le fait qu'il faut recruter et vite. Dans cette bataille de chiffres, Yannick Jadot veut débloquer 1 milliard d'ici 2027, 12 000 nouveau magistrat pour Anne Hidalgo, un plat hors sec pour Valérie Pécresse qui permettrait de doubler de 50% le budget des tribunaux sur tout le quinquennat.
Sur la politique pénale, on retrouve le clivage gauche-droite classique.
Absolument. À gauche, on répète qu'il faut éviter le tout carcéral, tout faire pour éviter la récidive, et cela passe notamment par des peines alternatives. Les candidats mettent aussi l'accent sur la justice du quotidien. Jean-Luc Mélenchon entend ainsi garantir la gratuité des procédures les plus courantes, comme le divorce. À droite, sans grande surprise, c'est la course à la fermeté. Le Pen, Zemmour, Pécresse plaident tous pour un rétablissement des peines planchers, c'est-à-dire des peines minimales appliquées automatiquement, quel que soit le parcours de l'individu.
Et donc les prisons, on les agrandit?
Alors on construit. Marine Le Pen veut 25 000 places. Qui dit mieux? Valérie Pécresse un peu moins, 20 000. La candidate LR sait que les prisons mettent souvent plusieurs années à sortir de terre. Alors en attendant, elle propose d'utiliser des bâtiments désaffectés pour les personnes sous bracelet électronique. Nicolas Dupont-Aignan lui propose carrément d'ouvrir un bagne dans les îles Kerguelen pour les djihadistes.
Demandez le programme pour la justice ce soir. C'est votre rendez-vous tous les soirs à cette heure-ci en ces temps de campagne. C'était avec Cindy Hubert ce soir sur RTL. Et bien entendu, si vous voulez retrouver toutes les autres thématiques abordées ces derniers jours, vous allez cliquer sur RTL.fr. Ça vous aidera peut-être à faire votre choix avant l'élection dans 3 jours. Merci Cindy.
Présidentielle 2022, demandez le programme.
RTL 18h34.
Laissez-vous tenter, dernière.
Et toute autre chose maintenant avec Laissez-vous tenter, dernière. Effectivement, tous les soirs, de bonnes idées pour occuper vos soirées, des idées sorties notamment, et pourquoi pas un spectacle ce soir avec Julia Molcou. Bonsoir Julia.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Vous nous proposez de rire avec une femme que vous aimez beaucoup, ancienne avocate qui depuis plus de 10 ans maintenant fréquente plutôt le Palais des Glaces que les Palais de Justice. Il s'agit de Caroline Vigneault.
Caroline Vigneault qui, avec son spectacle Caroline Vigneault croque la pomme, poursuit sa tournée triomphale en France et s'apprête à s'arrêter 4 soirs à l'Olympia. Ce sera la semaine prochaine et attention, je vous le dis tout de suite, hein, elle n'est pas là pour la balade.
Ah bah oui, non mais c'est pas à l'école que j'ai entendu parler de mon sexe. Hein. Ah bah non mais vous savez que le clitoris a été représenté correctement dans un manuel scolaire pour la première fois en 2017. J'avais fini l'école.
Après nous avoir raconté comment elle avait quitté la robe d'avocat dans son précédent spectacle, et bien cette fois-ci, Caroline Vigneault nous propose, vous l'aurez compris, un spectacle féministe, mais à la fois drôlissime et positif, ce qui est quand même pas mal.
Drôlissime et positif, c'est-à-dire ?
Bah, son spectacle, c'est un peu une histoire du féminisme pour les nuls. Et croyez-moi, ça ne fait pas rire que les femmes, au contraire. Elle remonte à Adam et Ève, et puis elle déroule ensuite la domination des hommes sur les femmes. Domination absurde, on le sait, mais elle, elle arrive à rendre ça très drôle.
Je sais ce que vous allez me dire. Oui, enfin Caroline, c'est normal, parce qu'à l'époque, les femmes, elles avaient même pas le bac. Maintenant, on n'avait pas le droit de le passer. Le bac est interdit aux filles jusqu'en 1924. Alors c'est vrai, on passait quand même un petit examen réservé à notre sexe, un petit bacounet. C'était arrangement floral à l'écrit. Et comment faire plaisir à ton mari ? À l'oral, bien sûr.
Voilà, Caroline Vigneault poursuit donc sa tournée partout en France. Ce soir, elle sera à la Ferté-Bernard, demain soir à Lens, puis ce sera Taverny, Clichy-la-Garenne, Saint-Marcel et j'en passe. Sans oublier, bien sûr, je vous le disais, du 13 au 16 avril, ces quatre soirées à l'Olympia. Allez-y, elle est vraiment très drôle.
Elle est un peu partout en France, profitez-en. Le spectacle de Caroline Vigneault pour rire et que ça fait du bien. Merci beaucoup, Julia Molcou.
À demain.
Et à demain pour de nouveaux conseils dans Laissez-vous tenter dernière. Petite pause, ensuite on va défaire le monde, les 20 minutes d'actu autrement avec Céline Landreau, Mérissa Emani, Laurent Tessier. Bonsoir les amis.
Bonsoir.
On vote dans 3 jours et vous allez répondre à cette question assez incongrue. Que se passe-t-il dans notre cerveau quand on met le bulletin dans l'urne ? Réponse juste après ça. Restez à l'écoute, c'est assez étonnant.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.